recherche ou quête du monde entier, avez-vous déjà connu la maladie, la vraie ? Celle qui manque de vous tuer ou d'atteindre votre corps jusqu'au creux de votre chair ? Celle qui vous immobilise physiquement, vous fait souffrir atrocement et vous accable psychiquement ? Celle qui vous contraint à ne plus vous mouvoir comme avant ? La maladie, mon invité du jour l'a connue par deux fois, au cours de son encore jeune existence, dans l'enfance d'abord, alors touchée par un mal qu'on ne croit réservé qu'aux autres et qui a plus vieux que soi, puis une seconde fois au mi-temps de sa vingtaine. Amputé du coccyx, après avoir voulu mettre un terme à d'intolérables douleurs au dos, le sort s'acharne sur lui à la suite d'une opération chirurgicale ratée. Voilà son corps littéralement troué, déchu de son fondement, et sa vie transformée en une errance médicale et existentielle. Et face à la douleur, entre les rémissions et les rechutes, il y a les rencontres et les escapades, l'amitié et l'amour, la joie et l'humour, bref, le désir de vivre malgré tout. Je vous dirai les choses telles qu'elles furent, telles qu'elles advinrent au fil des carrefours et des chutes, car c'est bien ce dont il s'agit toujours, de notre vie qui s'effondre et pirouette sans qu'on n'y comprenne rien. Alors comment et pourquoi vivre quand tout conspire justement à nous anéantir ? Élément de réponse en compagnie de Nicolas Krastev-McKinnon à l'occasion de la parution de son premier roman « La vie sans fondement » aux éditions Philippe Ray. Ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bienvenue dans le temps des chouquettes et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Alors ce premier livre, je l'ai évoqué en introduction, il naît d'une situation médicale qui est aussi rare que douloureuse pour vous. Et vous allez commencer à l'écrire depuis un lit d'hôpital. Et c'est à la fois le récit d'une rémission, mais c'est aussi une interrogation sur la possibilité de vivre quand tout contribue à vous détruire. Je voulais vous demander si vous l'aviez écrit uniquement pour guérir ce livre, si c'était ça l'impulsion de départ.
Je l'ai écrit en partie pour guérir, mais je l'ai aussi écrit pour me réapproprier une histoire qui avait été très douloureuse, faire mien un destin que je n'avais pas choisi et remettre de la lumière dans ce qui avait été très sombre. Par l'humour, par l'écriture, le style, j'ai essayé de construire une histoire qui me plaise et non une histoire que j'avais simplement subie. Donc l'écriture a été une forme de thérapeutique, si je puis dire, mais aussi une façon d'insérer de la lumière dans la défaite.
Parmi les personnages qui traversent le récit, il y a le personnel soignant, justement, et une entité à laquelle vous rendez hommage, qui est l'hôpital public. Dans les dernières pages, vous écrivez notamment ceci. « J'ai trop médit sur la médecine, mais il y a tout un peuple sans lequel je ne serais plus. C'est celui des soignantes et des soignants, des infirmières et des infirmiers, des cuisiniers, des hommes et des femmes de chambre, des ambulanciers, des anesthésistes, à qui je donne une mention spéciale, des auxiliaires de vie, de tous ceux qui forment jour après jour le grand corps de l'hôpital public. Je leur dois la vie. » Un hôpital, ça représente quoi pour un malade, Nicolas ? Et qu'est-ce qui s'y joue pour vous, au-delà du seul désir de guérison ?
Pour moi, un hôpital, c'est un lieu où se tisse de manière assez discrète une communauté du sensible entre des corps fragiles, mais aussi une communauté assez politique, vivante, où il y a des interactions, des disputes. Et c'est un lieu en fait, qui existe en marge des villes, en marge de la vie normale, de manière assez invisible et presque insidieuse. Ce sont des tiers-lieux, presque des hyper-lieux, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais c'est sûr qu'on découvre à l'hôpital une temporalité qui n'est pas celle du monde moderne. On découvre des relations qui sont extrêmement sensibles entre le patient et le médecin, avec les autres patients, avec les infirmières. C'est tout un monde, l'hôpital, et qui n'a pas que de l'horreur à proposer. C'est aussi un monde où on peut trouver une certaine poésie.
Et vous, parce que voilà, il y a eu des nombreuses années de convalescence que vous racontez très bien. C'est un livre qui surprend énormément quand on découvre de quoi vous avez été victime, du mal qui vous a rongé. Vous, quand vous êtes à l'hôpital pendant tous ces mois-là, comment vous le vivez, justement, ce tiers-lieu, cette marginalité-là, qui s'impose à vous ? D'un seul coup, ça vous déprime ou vous arrivez rapidement à y trouver une joie ?
Je dirais que ça m'a quand même beaucoup attristé sur le moment. Ce qui était dur, c'est de voir la vie des autres avancer, suivre son cours normal, être pleine de rencontres, de folies, de joie, de départ. Et moi, j'étais comme condamné à une sorte d'immobilité tragique. Mais petit à petit, j'ai réussi à tisser une toile d'occupation avec le cinéma, le jeu d'échecs, la lecture. Et j'ai réussi à trouver un certain calme dans cette convalescence, à me découvrir, à me poser des questions, à lire, à apprendre de manière très solitaire, même si j'avais des visites, mais qui sont toujours un peu artificielles. Et peut-être, voilà, j'ai appris à patienter, en fait, en un sens. Comme j'ai toujours été un garçon assez pressé, l'hôpital m'a appris à patienter, à subir, en un sens. Ouais.
Alors, on le voit dans ce que vous dites, il y a une partie très ambiguë, à la fois du lieu qu'est l'hôpital, et il y a une chose que vous décrivez très bien aussi dans le récit, c'est le rapport souvent conflictuel, voire parfois de méfiance entre le patient et le soignant, le médecin, en l'occurrence souvent des chirurgiens que vous avez rencontrés. Un en particulier qui est le docteur Aubois, qui est le chirurgien qui, en ratant votre opération du coccyx, va faire débuter tous vos déboires médicaux. Or, ce dernier ne cessera de nier sa responsabilité dans cette série de complications et ne cessera de nier son erreur. Devant vous, il se défile. Pour vous, qu'est-ce qui se joue dans ce rapport de force entre le patient et son médecin ?
Je dirais que j'ai toujours fait une confiance assez aveugle aux médecins. En premier lieu, j'ai toujours pensé qu'ils avaient voilà, une sorte de science infuse et qu'ils étaient presque comme des dieux, notamment lorsque je parle du chirurgien qui m'a retiré la tumeur au cerveau quand j'étais adolescent. Mais avec voilà, ces expériences médicales, j'ai perdu une certaine foi en la médecine, ou du moins en la fiabilité absolue de la médecine. J'ai compris que les médecins sont des hommes comme les autres, qu'ils essayent, tentent et échouent parfois. Et j'ai aussi compris qu'ils ne se valaient pas tous, en un sens. Mais mon propos n'est pas de faire une critique générale de la médecine, juste d'expliquer que j'ai fait des rencontres malheureuses, que certains liens ont été très compliqués. Et ce que j'en ai tiré, c'est quand même une sorte de méfiance. C'est-à-dire que les médecins, pour moi, ont presque chuté de leur piédestal. Voilà.
Oui, pour autant, il y a quand même une nuance, effectivement, qui est liée à la question précédente. C'est que, et notamment, il y a des pages très précises que vous prenez le temps d'écrire. Voilà, parce que ce n'est pas du tout un livre où les questions uniquement de vous. Vous avez des pages où vous décrivez le service hospitalier où vous vous retrouvez. Vous avez des mots et des phrases pour les gens qui y travaillent. Donc il y a aussi, malgré cette méfiance-là, qui est due à des raisons assez objectives quand on découvre votre vie, il y a aussi cette attention que vous avez quand même à la réalité des services médicaux, aux difficultés qui sont rencontrées. Et voilà, il y a quand même cette attention-là qui est assez forte pour un
oui,
livre de témoignages.
Ouais. Beaucoup de reconnaissance aussi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a une autre chose aussi moi, que je trouvais très intéressante, c'est que la singularité de votre maladie, elle envoie sans cesse le lecteur à sa propre mobilité, aux propres capacités ou incapacités de son corps, comme un miroir. Et en vous lisant, on est ramené au fait que se mouvoir, se tenir debout ou être assis sans douleur ne va pas de soi et n'est jamais acquis, notamment dans nos sociétés contemporaines et en ville où l'on passe beaucoup de temps assis, souvent, devant un ordinateur, au point qu'on n'interroge plus cette position. Et vous, Nicolas, vous n'avez simplement pas pu vous asseoir pendant des années et vous êtes devenu ce que vous appelez un homme vertical. Alors comment on perçoit le monde quand on est contraint de devenir un homme vertical ?
On est obligé de courir, c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où j'ai eu mes douleurs au coccyx, je me suis acheté un coussin d'assise pour essayer de soulager la douleur, et après l'opération, après l'amputation, je ne pouvais plus du tout m'asseoir pour ne pas abîmer ma cicatrice, et ça a duré presque 2 ans. Alors je travaillais debout, je regardais les films allongés, je marchais beaucoup, et il y avait quelque chose de l'ordre vraiment de la course contre la montre. Quand on ne se pose jamais, on a toujours l'impression d'être en transit. Il y a quelque chose de très frénétique dans ce mode de vie, de très épuisant aussi, parce que parfois je pouvais rester debout pendant des heures pour quand je donnais des cours, 2 heures debout, c'est quand même pénible. Il y avait quelque chose d'épuisant et à la fois de philosophiquement assez fort, c'est-à-dire que de voir à quel point on s'écrase, on s'assoit dans nos sociétés modernes, c'était assez assez instructif. Et puis ça m'a donné une sorte de force spirituelle aussi de rester debout. C'est un exercice ascétique, si je puis dire. Ouais. Ouais.
Une des conséquences aussi de cet errement médical-là, c'est l'éloignement qui se fait ressentir au bout d'un moment avec vos amis. Il y a une partie du livre où vous décrivez, je ne sais plus désolé exactement comment vous le formulez, mais le fait que les amis, les gens n'attendent pas. C'est-à-dire que quand vous retrouvez dans cette position de marginalité, même une fois sorti de l'hôpital notamment, les gens que vous côtoyez continuent, avancent dans leur existence, il y a cette espèce d'écart-là. Ça aussi, ça, c'est une des conditions de la personne malade. Qu'est-ce que ça vous a appris aussi, cet écart-là qui s'est créé ?
Ce que j'ai expliqué, c'est que personne n'attend personne. Mmh. Ça, c'était le grand, la grande proposition du livre. Ouais. Mais il me semble que j'ai été un peu pessimiste à cet égard. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas arrêter le monde, on ne peut pas empêcher les autres d'avoir une vie normale parce qu'on est soi-même empêché. Mais je pense qu'avec beaucoup de douceur et l'amitié, la force de l'amour, il y a aussi quelque chose où on peut s'accompagner. Vous voyez, on n'est pas tout n'est pas une course. Moi, quand j'avais 22 ans, quand j'ai souffert de ces problèmes-là, j'étais encore dans une perspective un peu sportive, performative de la vie. Vous voyez, il fallait que tout soit une course. C'était la course à la case, la course à la réussite. Et finalement, ce personne n'attend personne, j'y crois toujours encore, mais je le nuancerai en disant que si parfois certaines personnes nous attendent, j'ai eu des amis qui ont été très présents, une famille qui m'a attendu, donc voilà, il ne faut pas désespérer à cet égard-là.
Alors vous le dites, ce qu'on voit dans le livre, c'est votre vie avant, effectivement, qui était, c'est ce que vous décrivez, très tournée vers la frénésie, la fuite, la volonté d'échapper au quotidien un peu morne à certaines responsabilités. Il y a effectivement ce coup d'arrêt voilà, dont vous êtes victime. Je voudrais qu'on revienne sur ce basculement-là qui est le fil du livre. Mais justement, puisqu'il est un petit peu question de fuite, et pour faire une petite coupure musicale, il y a un lieu où vous fuyez un temps, c'est l'Italie et Rome en particulier, avec l'espoir d'une vie plus douce. Alors je vous propose de faire un petit détour par la botte, comme on l'appelle, en écoutant cette chanson que je trouve sublime de Mina Mazzini, Un bacio è troppo poco.
Temps des chouquettes, une émission présentée par Lucas Beria.
Vous êtes toujours dans le temps des chouquettes sur Radio Campus Paris 93.9 FM, toujours en compagnie de Nicolas Krastev-McKinnon à l'occasion de la parution de son premier roman La vie sans fondement aux éditions Philippe Ray. On écoutait à l'instant Un bacio e troppo poco de la chanteuse italienne Mina Mazzini. Nicolas, vous m'avez dit pendant la diffusion que vous ne la connaissiez pas cette chanson. Est-ce que vous qui avez eu passé une partie de votre vie à Rome, qu'est-ce que vous inspire cette chanson? Est-ce que ça vous rappelle des choses?
Je la trouve très belle et ça me donne envie d'y retourner très vite.
Ça marche. Je faisais le lien avec Rome parce que c'est associé dans le livre au désir de fuite que vous avez. Et cette assignation à l'immobilité, à la douleur, elle a été d'autant plus violente et difficile pour vous qu'elle allait complètement à l'encontre du mode de vie que vous aviez. Cette part hyperactive de votre personnalité, vous la pointez très vite dans les premières pages. Vous écrivez « Je pars ». Je n'ai jamais arrêté de partir, c'est vivre qu'il aurait fallu. Vous nous avez expliqué un peu finalement qu'il a fallu cette maladie pour apprendre à vivre. Quand vous dites c'est vivre qu'il aurait fallu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y avait de non-vie dans cette exaltation-là?
C'est-à-dire que j'ai toujours préféré la fuite à la demeure et j'ai toujours été dans une sorte de précipitation assez douloureuse même pour moi. C'est-à-dire que j'ai longtemps fait un rêve où un homme courait le long des rails d'un train et le ken ne s'arrêtait jamais. Vous voyez, c'était un peu ça l'image de ma vie. C'était une fuite en avant, parfois joyeuse, parfois douloureuse, mais qui finalement ne remplissait pas ce que j'attendais. Vous voyez, c'était trop frénétique. Et voilà, avec, comme vous l'avez dit, avec la maladie, avec l'obligation de demeurer au même endroit, j'ai appris à me connaître et j'ai pu faire un voyage plus intérieur qu'extérieur, en un sens.
Oui, et cette maladie, c'est aussi un apprentissage. C'est une manière nouvelle, vous le dites, pour vous d'appréhender l'existence. Et donc, l'une des choses que vous avez appris, c'est la patience. Vous dites, tout cela n'aura été finalement qu'une histoire de patience. J'ai enfin appris à attendre. Le livre peut paraître, là, quand on l'évoque comme ça... assez dur, assez triste, il l'est en partie, mais il y a aussi, on va en parler un peu après, il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup d'humour, et il y a quand même quelque chose de très galvanisant, c'est la façon dont vous avez quand même, voilà, je pense que vous auriez pu craquer jusqu'au point de non-retour, il se trouve que ça n'a pas été le cas. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement, de joie pure au bout, de se dire que malgré tout, il y a le désir de vie vraiment qui continue. Mais qu'est-ce qui a été aussi joyeux en découvrant que malgré la contrainte, certes, mais que cette immobilité-là, elle était tout aussi agréable par moment que la frénésie d'avant. C'est quoi qu'est-ce qui fait prendre conscience de ça?
Ça a été peut-être certains moments quand j'ai découvert le jeu d'échecs qui m'a aidé à vraiment m'enraciner et à trouver un plaisir immobile, un plaisir seulement cérébral et pas géographique. Ça a été aussi peut-être l'espoir, en fait, la façon de toujours envisager le meilleur et de toujours voir qu'il y avait une issue, peut-être il y avait une guérison malgré ça, et ça m'a aidé à tenir et à transformer la défaite en victoire, comme le dit René Char. Et voilà, et peut-être aussi la joie de se connaître, de se découvrir, de transformer ce moment d'immobilité, d'assignation à résidence, en une expérience intérieure assez riche, en fait.
Alors, il y a une chose aussi qui rajoute à la complexité de tout ça, qui, je pense, va faire écho chez énormément de gens, c'est ce que vous appelez le démon de la récidive, qui est une formule qui résume parfaitement l'angoisse permanente, sur laquelle, en plus, on n'a aucune prise, ce qui la rend d'autant plus injuste, d'avoir le risque que la maladie revienne. Ça aussi, vous avez une façon de le traiter aussi avec de la distance, mais voilà, on sent que ça compose votre quotidien aujourd'hui. Comment on le traîne avec soi? Est-ce qu'on le traîne déjà, parce que c'est assez péjoratif, est-ce qu'on le traîne ou est-ce que c'est un compagnonnage qui peut être doux, ce démon de la récidive, ou est-ce que c'est impossible?
Non, on le traîne quand même, le traîne, c'est une belle expression. Je le porte encore avec moi de manière moins marquée, de manière moins anxiogène, mais ça a quand même été très long, ça a pris un an, la rééducation, les rêves qui ne s'effaçaient pas, la façon de, à chaque fois que je m'assois, en fait, je pense à ma cicatrice. Toute mon histoire, elle est ancrée en moi de façon presque permanente. J'ai beaucoup travaillé pour essayer de l'oublier et mettre tout cela à distance. Mais effectivement, comme la cicatrice au cerveau, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour réussir à accepter une blessure et à la faire sienne. Et pour l'instant, je dirais que ce n'est pas encore le cas. J'ai toujours un rapport assez méfiant à mon propre corps.
Et ce livre-là, il a... Parce qu'il y a toujours la première question que je vous avais posée sur le... Est-ce que vous l'avez écrit pour guérir ? C'était aussi pour titiller un peu cet imaginaire-là de la littérature qui soigne, ce qui est le cas parfois. C'est quoi votre rapport à ça ? Est-ce que, maintenant que le livre est sorti, qu'il a eu... Voilà, il y a eu des retours de lecture, vous avez pu en parler à certaines personnes. Est-ce que ça a été une étape dans ce cheminement-là ou pas autant que certains peuvent attacher à
si,
ça ?
Si, c'était quand même une belle étape de mettre cette histoire sur le papier, de la montrer au monde, entre guillemets, de faire de mon intimité la plus profonde une publicité, voyez ? Et ça a été très décisif pour me détacher de cette partie de moi, de cette histoire difficile, et à la fois, paradoxalement, en m'en détachant et en parlant, en étant lu, il y a quelque chose où je me suis réapproprié tout ça. Et donc ça, c'est un beau cheminement. Et maintenant que c'est derrière moi, j'ai envie de me lancer dans l'écriture de fiction, de dépasser en fait le seul cadre biographique dans l'écriture.
Ouais, parce que alors il y a une chose que j'ai pas évoquée, c'est votre premier roman, c'est pas votre premier livre. Vous aviez fait deux, et on retrouve parfois, vous avez fait deux dictionnaires critiques sur deux rappeurs très connus, donc Damso et Orelsan. Je trouve justement dans La vie sans fondement, on retrouve par moments, je ne sais pas si vous diriez que c'est des phrases punchline, mais il y a certaines phrases qui ont quand même cet effet-là, je trouve, où on sent, et notamment dans l'autodérision, dans l'humour qu'il peut y avoir, cette espèce d'inspiration du rap que vous avez, on sent que vous aimez évidemment cette musique-là.
Oui, c'est sûr.
Cette place de l'humour, la littérature, l'humour, bon, c'est un peu tarte à la crème, mais je me dis, est-ce que c'est venu immédiatement quand vous l'avez écrit, le fait d'injecter de l'humour comme ça, c'est venu tout de suite, ou il a fallu un peu se forcer quand même pour se dire, bon, c'est un peu tristoun, je vais peut-être quand même mettre un peu de...
Non, c'était la première donnée presque de mon travail, c'est-à-dire que j'ai toujours été très enthousiaste, je suis passionné par l'humour, par... Voilà, la littérature drôle. Je travaille en thèse sur Émile Cioran, qui est un auteur à la fois très pessimiste et qui se décrit comme un fanfaron de l'incurable. Donc voilà, j'avais vraiment cette inspiration, cette imprégnation de faire une littérature qui fasse rire et pas seulement qui rende triste ou qui témoigne de quelque chose de grave.
Alors je confirme à celles et ceux qui nous écoutent, on rit beaucoup dans ce livre, étonnamment. On est traversé par beaucoup d'émotions. Et voilà, et si vous avez l'envie d'en écrire d'autres, je pense qu'on sera tous très curieux de les découvrir. Merci beaucoup, Nicolas,
merci
d'avoir été avec
nous,
c'était un vrai plaisir. Je rappelle donc, évidemment, votre livre « La vie sans fondement » qui est publié aux éditions Philippe Ray, qui est par ailleurs une très belle maison d'édition, qui est disponible dans toutes les librairies indépendantes de France. Quant à nous, chers chouquettes du monde entier, on se retrouve bientôt pour de nouvelles réjouissances littéraires. D'ici là, bonne lecture. Chaque année, des milliers de personnes s'échouent dans les couloirs de l'hôpital public. C'est à l'ombre qu'elles y croupissent, combattent, espèrent et désespèrent, selon le temps qu'il fait. À l'ombre des vies actives, mobiles, frénétiques, des villes à toute vitesse, de toutes les bonnes santé, à l'ombre d'elles-mêmes, de leur ancienne joie, disparue, annulée, perdue dans la grande nuit qui leur est tombée dessus. En pleine figure la nuit, sans belle étoile à prendre en chasse. Un patient parmi d'autres, parmi une infinité d'autres, c'est ce qu'on devient quand le corps se lamente et la terre se moque bien de nos petits tracas. Malade, vous voilà de ce peuple qui se meurt sans mourir, avec si peu d'espoir qu'on n'en ferait pas un châle. De ce peuple hors-jeu, mis sur la touche, trop ringard pour survivre. Qu'est-ce donc qui nous trahit dans ce qui nous fait vivre ? J'ai écrit ce livre de mon lit, pas somptueux le lit, ni bien confortable, son seul mérite est de me supporter. C'est un petit lit bleu de l'assistance publique, modeste comme pas deux. Je ne suis ni le premier ni le dernier locataire, mon cas ne fera pour lui aucune différence. Je m'appelle Nicolas Krastev Makinon, Krastev, issu de la croix en russe, et nom de mon père, bulgare. Après le divorce de mes parents, Makinon est venu s'ajouter à ma carte de visite. J'ai un nom bulgaro-canadien, fait de deux blocs dignes de la guerre froide, initiale NKM. J'ai grandi à Paris, entouré de femmes. J'ai toujours été bon à l'école. Mes qualités sont mes défauts, je suis enthousiaste, fougueux, je tiens difficilement en place. Je pense souvent à autre chose lorsqu'on me parle. J'aime regarder les filles. Je suis gentil avec ma mère. J'ai un physique plutôt banal, à mi-chemin du Kabyle et du Sépharade. J'ai la peau triste, des plaines bulgares, le nez d'un séducteur et des sourcils bien épais à la Frida Kahlo. Je porte des lunettes que je hais et des lunettes de soleil que j'adore. Je suis un jeune homme normal, un jeune homme de 25 ans comme les autres. Je rêve de grands espaces et de départs en furie, d'un amour qui ferait claquer les portes, et je cours après cela comme un désespéré. Je vous dirai les choses telles qu'elles furent, telles qu'elles advinrent au fil des carrefours et des chutes, car c'est bien ce dont il s'agit toujours, de notre vie qui s'effondre et pirouette, sans qu'on n'y comprenne rien. Mon récit est pour les faibles, les fragiles, les éclopés, les malmenés, les pas gâtés. Pour ceux qui n'ont pas pu monter dans le train, mais qui s'accrochent quand même au wagon, le monde n'est pas à nous, tant pis pour lui. Ceci est mon histoire, mon lot, ma fortune.